sommes le jeudi 3 mars. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir sur la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a choisi seul d'envahir l'Ukraine, mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, dit-il. Analyse à suivre dès le début du journal. Les autres titres, Anaïs.
Sur le terrain, une première grande ville tombée aux mains des Russes dans le sud du pays. Témoignage dans ce journal d'une habitante de Kherson. La campagne présidentielle en France, Jean Lassalle en candidat de la ruralité au Salon de l'agriculture. Total Energy poursuivi pour publicité mensongère et Nantes qualifié pour la finale de la Coupe de France de football.
Les invités d'un ce matin à 7h50 avec vous Alexandra.
L'accueil des réfugiés ukrainiens, déjà 1 million de personnes ont fui leur pays. Et puis en France, l'affaire Colonna, comment est-ce possible? Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est l'invité du 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. J'attends vos appels, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. La guerre en Europe est là sous nos yeux, elle n'appartient plus au livre d'histoire. Les mots hier soir du président de la République, une semaine après le début du conflit en Ukraine, un quart d'heure d'une allocution enregistrée diffusée à la télévision, avec 3 drapeaux derrière le pupitre, les drapeaux français et européens et le drapeau ukrainien. Le chef de l'État, Élise de Lesves, promet des jours de plus en plus durs sur le terrain, tout en prenant garde de faire une différence entre Vladimir Poutine et le peuple russe.
Emmanuel Macron insiste, Vladimir Poutine a choisi seul d'envahir l'Ukraine. Face à lui, l'Europe, la France, et cette réponse, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme.
La France est aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui refusent qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, poursuit le chef d'État, faisant allusion aux manifestations qui se multiplient en Russie malgré les arrestations. Emmanuel Macron dénonce une guerre, fruit d'un esprit de revanche nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire, des mensonges.
Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme.
Malgré les attaques contre le président russe, Emmanuel Macron laisse la porte du dialogue ouverte. J'ai choisi de rester en contact autant que je le peux avec Vladimir Poutine. Le président français veut chercher à le convaincre de renoncer aux armes. Une bataille qui semble déjà perdue.
Et en effet, sur le terrain, les rues éventrées, les ruines, les frappes militaires incessantes. Et une première grande ville tombée aux mains des Russes, Kherson, dans le sud du pays, près de 300 000 habitants. Delphine Evenou a pu y joindre Yulia, qui habite dans la banlieue de la ville avec son mari et sa fille de 8 ans.
Les Russes ont attaqué notre ville. Il y a beaucoup de fusillades à Kherson. Les magasins ne marchent pas. Les pharmacies ne marchent pas. Il n'y a pas de médicaments. L'armée russe a volé tout ce qu'ils veulent dans les magasins. Il a volé l'alcool. Il a volé notre drapeau national. Nous ne pouvons pas partir parce que la ville est entourée de l'armée russe. Nous ne quittons notre maison. Nous restons avec nos produits. Et qu'est-ce que nous avons, nous aurons dans 2 jours ou dans 5 jours, nous ne savons pas.
Yulia, une habitante de Kherson à Kiev, la capitale, de fortes explosions ont été entendues hier soir et cette nuit près de la gare. Et sous les bombes, des morts, y compris parmi les civils. Bilan ahurissant selon les Américains qui évoquent des centaines ou des milliers de civils tués ou blessés. Une employée de l'OSCE a été tuée à Kharkiv. Elle allait chercher des provisions pour sa famille dans une ville qui est devenue une zone de guerre, dit l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors dans la diaspora ukrainienne, certains répondent à l'appel de leur président à venir combattre. En Pologne, où vivent 1,5 million d'Ukrainiens, certains depuis des années, des hommes choisissent de rentrer au pays et se retrouvent depuis quelques jours à la gare routière de Varsovie. Le reportage de notre envoyée spéciale Agathe Mahué.
Partir et se battre coûte que coûte. Radion a posé une petite pancarte sur sa valise. Il fait la manche pour se payer le billet vers sa terre natale.
J'ai ma fille qui vit là-bas, mes parents aussi. Je me dois d'y aller. L'ennemi attaque mon pays.
Le trajet coûte 100 zloty, 25 euros pour rejoindre Lviv. déjà une petite fortune pour lui. Sur le quai, tout près, un groupe d'hommes patientes, prêts à partir, en jean et en simple basket. Patrick, le traducteur, confirme, ils n'ont presque pas d'équipement.
Le problème, c'est que le matériel militaire est inabordable. Les prix ont grimpé face à la demande. Donc ces hommes nous disent que, c'est très bien que les pays occidentaux annoncent vouloir livrer des armes et du matériel. Mais c'est tout de suite qu'ils en ont besoin. C'est maintenant qu'ils se battent.
Pourtant, d'autres ont tout un barda. Deux gros sacs kaki pour Sevili, qui se dit déserteur de la Légion étrangère en France. Sa nationalité, biélorusse.
Vous connaissez mon président ? Le dictateur, Loukachenko, c'est un fou, comme Poutine.
Sevili s'en va combattre l'armée russe. Il montera tout à l'heure dans l'un de ses autocars une trentaine chaque jour qui repartent ainsi de Varsovie vers l'Ukraine.
Un reportage d'Agathe Mahué à Varsovie.
Dans ce contexte, la diplomatie peut-elle faire taire les armes ?
La Russie se dit prête à discuter aujourd'hui d'un cessez-le-feu. Des émissaires ukrainiens sont en route pour cette deuxième session de discussion pour parler prévu ce matin, non loin de la frontière avec la Pologne. À l'Assemblée générale des Nations Unies hier, 141 pays ont exigé de la Russie l'arrêt immédiat de la force. 5 ont voté contre. Outre la Russie et la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée, 35 abstentions, dont la Chine. Et puis 1 million de personnes ont fui l'Ukraine en une semaine. La Commission européenne propose d'activer un mécanisme de mesures temporaires pour les Ukrainiens. Réunion aujourd'hui à Bruxelles. Les détails dans le journal de 7h30. Conséquence lointaine, mais qui dit bien le séisme de la crise. En Angleterre, le club de foot de Chelsea, champion d'Europe en titre, est à vendre. Son propriétaire, l'oligarque russe Roman Abramovitch, l'a annoncé hier soir. Le milliardaire paye sa proximité avec Vladimir Poutine, mais tente de se refaire une virginité à Londres. Richard Place.
Tous les bénéfices nets de la vente du club seront reversés à une fondation au profit des victimes de la guerre en Ukraine. Roman Abramovitch l'explique en quelques lignes, lui qui a aussi fait savoir qu'il œuvre pour le rapprochement entre Kiev et Moscou. Il tente de faire oublier ses liens avec le président russe, mais il ne va pas jusqu'à condamner ses actes. Le communiqué du milliardaire est tombé hier soir, juste avant un match de coupe pour Chelsea, et pour son entraîneur Thomas Tuchel, heureux de la victoire, mais un peu bousculé par le contexte.
C'est une grosse nouvelle, on essaye de s'isoler de tout ce bruit et de rester concentré.
Abramovitch a pris les rênes de Chelsea en 2003, rapidement surnommé Chelsky du fait des origines du patron. Il a injecté des centaines de millions d'euros, fait venir des stars et engrangé les trophées, notamment 2 Ligues des Champions. Alors aujourd'hui, Harry, supporter des Blues, s'inquiète.
Ça pourrait provoquer la fin des jours de gloire. Quand tu sais qu'un couple doit se séparer, prendre des chemins différents. Le temps est venu, c'est évident. C'est triste, très triste.
Une tristesse partagée par le propriétaire sur le départ qui écrit « Ça me fait mal de me séparer du club de cette manière ». Puis il ajoute qu'il espère pouvoir saluer les supporters une dernière fois dans le stade de Stamford Bridge. Londres, Richard Place, France Inter.
Enfin, à noter que le Comité international paralympique ne suit pas les recommandations du CIO pour les Jeux qui s'ouvrent demain. La Russie et la Biélorussie pourront bien y participer, mais sous bannière neutre.
Marion Maréchal va-t-elle soutenir Éric Zemmour ?
À moins de 40 jours du premier tour de la présidentielle, la nièce de Marine Le Pen sera en tout cas présente au meeting du candidat d'extrême droite dimanche à Toulon. Marine Le Pen passait hier au Salon de l'agriculture, tout comme Jean Lassalle, candidat affiché de la ruralité et accueilli comme une star, Audrey Tison.
Un peu comme à la maison, le Béarnais salue et tutoie tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien. Vous êtes un grand.
Ça, c'est vrai.
Il enchaîne les serrages de main, les bises, les selfies.
Oui, ma chérie. Faire des photos avec vous.
Mais bien on sûr.
Dans un coin perdu de montagne.
Un petit morceau de fromage, un verre de vin blanc, le candidat fait le show pour ses nombreux fans qui ne voteront pas forcément pour lui, il l'avoue. Alors de temps en temps, Jean Lassalle se rappelle qu'il est en campagne électorale.
Je veux lancer campagne de France, grande cause nationale. Pour les campagnes de France, je mettrai une dotation de 3 à 4 milliards que je prélèverai sur la dotation que la France verse à l'Union européenne.
Un des sujets dont il aimerait débattre avec les autres candidats, si toutefois débat, il y a.
Si nous ne sommes pas capables de faire entendre les diverses sensibilités d'une France totalement désunie, je ne vois pas comment le nouveau président pourrait administrer ce pays qui n'aura pas connu le moindre débat après le Covid et après cette crise.
Alors Jean Lassalle va se tourner directement vers les Français, sillonner le pays à bord d'un bus, estampillé du nom de son parti, Résistons.
En plein salon de l'agriculture, la difficile négociation des prix des produits alimentaires, ils seront payés 3% de plus aux industriels pour répercuter l'inflation. Première augmentation en 8 ans selon le gouvernement. Les industriels réclamaient une hausse de 6%. La responsabilité de l'État pointée dans l'agression d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Rignac, toujours entre la vie et la mort après avoir été étranglé par un co-détenu. L'État devra rendre des comptes, accuse sa famille. Nous serons à Cargès dans une demi-heure. Et puis le garde des Sceaux, entendu aujourd'hui par la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti soupçonné d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats auxquels il s'opposait lorsqu'il était avocat. C'est le mur dans lequel l'humanité fonce tête baissée. Le réchauffement climatique qu'on peut espérer limiter à condition de n'exploiter plus aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz. Or, peut-on prétendre agir pour la transition énergétique tout en continuant à augmenter la production de ces énergies fossiles sans tromper le consommateur? C'est ce que plusieurs ONG reprochent à Total Energy. L'entreprise n'est pas poursuivie en justice mais assignée pour pratique commerciale trompeuse, Célia Kiré.
Dans les publicités de Total Energy diffusées en mai, le message est clair. Notre ambition est d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Et sur les réseaux sociaux, l'entreprise promet la neutralité carbone en 2050. Parmi les images, des éoliennes, des panneaux solaires, mais aucun puits de pétrole, ni photo de projets gaziers, en Arctique russe par exemple. Or, les énergies fossiles représentent toujours la grande majorité des activités de Total Energy. La juriste de Greenpeace, Clara Gonzalez, dénonce des pratiques commerciales trompeuses.
Concrètement, ce que Total Energy essaye de faire, c'est de nous faire croire qu'une major du pétrole et du gaz peut être alignée sur la neutralité carbone d'ici 2050, tout en produisant et en investissant plus dans le pétrole et dans le gaz. On considère que c'est une affirmation qui est mensongère. Elle trompe les consommateurs. Quand on analyse les plans de production et la stratégie climatique de Total, ce n'est pas ce que l'entreprise a prévu. Elle prévoit d'augmenter sa production de gaz et sa production de pétrole, ce qui est incompatible avec une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.
Mais en face, la direction de Total Energy se défend. Elle précise qu'elle met sa stratégie en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle écarte tout greenwashing. Total Energy a d'ailleurs aujourd'hui 3 fois plus de renouvelables qu'il y a 2 ans. Le combat juridique sera difficile pour les ONG.
Une première condamnation au Japon dans l'affaire Carlos Ghosn. Depuis sa fuite au Liban, son bras droit, l'américain Greg Kelly, condamné à Tokyo à 6 mois de prison avec sursis, beaucoup moins que les 2 ans ferme requis. Reconnu coupable de ne pas avoir déclaré des rémunérations que le PDG de Renault-Nissan devait recevoir de la part de Nissan. Et puis des milliers de supporters de football sur le terrain de la Beaujoire au coup de sifflet final. Nantes rejoint Nice en finale de la Coupe de France 22 ans après avoir remporté le trophée, après avoir battu Monaco au tir au but de partout à la fin du temps réglementaire.
Merci Anaïs Feuga pour ce journal. Dans 3 minutes, le zoom en Ukraine dans la ville refuge de Lviv.